elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes en direct sur Radio Panique 105.4 et vous êtes avec Elles en parlent encore, groupe radio. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre et avec cette pluie qui nous accompagne à la veille du 14 octobre, donc du jour des élections communales. Et on a choisi un peu d'aborder le sujet de notre point de vue, c'est-à-dire représentation en femme. On était parti de la question voter femme sur les listes électorales. Qu'est-ce que en tant que femme, voilà, quels sont les enjeux que en tant que femme se joue pendant cette élection et à quoi en tant que femme être attentive. Donc toutes ces questions nous ont accompagnés dans la préparation de l'émission. Et d'abord, avant de rentrer un peu dans le vif des sujets évoqués, je voudrais demander à tout le monde de se présenter.
Bonjour, je m'appelle Martin. Et voilà, je suis étudiante et voilà, je vais un peu parler aussi de mon point de vue, mon point de vue subjectif en tant qu'électrice.
Moi, c'est Hélène. Je suis une ancienne permanente de Vie Féminine. On travaille ensemble sur ce projet radio qui défend un point de vue féministe. Et donc, bonjour à tout le monde.
Et moi, c'est Georgia. J'ai oublié tout à l'heure de me présenter. Et donc, avant de rentrer dans le sujet, on va vous faire écouter un petit spot du Conseil des femmes francophones de Belgique que peut-être vous avez entendu déjà.
Dès l'âge de 18 ans, un grand nombre de citoyens souffrent de troubles de l'élection. Une affection qui se traduit par une méfiance injustifiée à l'égard des femmes politiques. Heureusement, des solutions existent. Pour en savoir plus sur le trouble de l'élection, consultez le Conseil des femmes francophones de Belgique. Des femmes qui vous redonneront envie de voter aussi pour des femmes. Plus d'infos sur cffb.be.
Alors voilà, bienvenue et re-bienvenue avec nous. C'est Elles en parlent encore, groupe radio de Vie Féminine. Donc par rapport, on s'est un peu plongé par rapport à l'histoire aussi du droit de vote des femmes, mais aussi à l'histoire de la répartition des quotas, etc. Et donc, par exemple, à savoir qu'à partir de 1921, en Belgique, on a pu voter comme femme aux élections communales. Et il y a eu une histoire, en 1994, il y a eu la vote de la loi Smet-Tobak qui visait un peu à promouvoir une répartition équilibrée.
C'était un tiers, deux tiers de représentation.
Oui, exactement.
Aucun sexe ne pouvait dépasser deux tiers.
Ne pouvait passer deux tiers des candidats du même sexe. Et puis, à partir de 1999, il y a les premières élections législatives où les quotas d'un tiers est vraiment d'application. Et en 2002, l'égalité des femmes et des hommes est garantie dans la Constitution belge. Et cette année aussi, il y a une loi sur la parité qui est votée pour l'alternance, une représentante d'alternance des sexes qui est imposée aussi aux deux premières places sur les listes électorales.
Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait un tiers des personnes qui d'un sexe, deux tiers de l'autre. Donc il n'y avait aucune garantie de les mettre à des places éligibles. On a été après sur l'égalité hommes-femmes en tant que nombre. Et maintenant, dans les places éligibles, on essaie que ce soit un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme, enfin, peu importe. Mais donc, de manière à ce qu'on puisse aller jusqu'à l'égalité des élus. Enfin, si les gens choisissent de voter...
Oui. Mais, et donc... Ça, c'est un enjeu. Certains, ils font la tirette aussi, et d'autres pas. Et le 50 et 50 à partir de 2002. Et Là, c'est tout un débat aussi qui s'ouvre et je voulais aussi vous poser voilà, la question et votre point de vue par rapport à ça. Parce que certaines organisations parlent de, voilà, de ça, de la loi des quotas et de mettre des quotas, c'est une transition, c'est-à-dire c'est pas au top, mais c'est une transition obligatoire et nécessaire. Et d'autres, ils voient plutôt comme... pas trop utile, qu'on crée des femmes potiches et donc il n'y a pas vraiment une vraie campagne autour d'une représentance égalitaire. Donc le sujet est toujours sur ce source des débats. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça après?
Bah, c'est une mode, une façon de faire en tout cas par rapport aux élections, c'est ça, c'était de se dire voilà, il faut la parité et on espère que ça va suivre et que ça va faire changer les mentalités. Comme dans les conseils d'administration, pour l'instant, il y a un gros travail de lobbying pour essayer qu'il y ait une représentation de 50-50 oui, oui. Hommes-femmes aussi. C'est une façon, je pense, de pointer le problème et d'essayer d'aller de l'avant. Maintenant, oui, effectivement, les lois ne règlent pas tout parce que c'est pas pour ça que les prises de décision se font pas. Enfin, c'est pas parce qu'il y a 50% des femmes qu'elles vont prendre la parole, qu'elles vont oser défendre leur point de vue et ni non plus qu'elles vont avoir un regard, je dirais, particulièrement féministe. Voilà. C'est une façon de faire avancer les choses et d'essayer de faire avancer les choses plus rapidement que de juste attendre que les mentalités changent suffisamment pour que ça se fasse naturellement. Voilà. Et puis, oui, moi, je pense que ça dépend quelle responsabilité on donne à ces femmes élues. Moi, je sais qu'il y a quelques années d'ici, par rapport aux élections, moi, je râlais toujours parce que, oui, effectivement, il y avait des femmes. Mais qu'est-ce qu'on leur donnait réellement comme responsabilité? Oui, il y avait des échevines de la petite enfance, comme si un homme ne pouvait pas être échevin de la petite enfance, que ça, c'était pour les femmes et des choses de ce type-là. Voilà. C'est un outil. C'est pas la réponse.
Et moi, j'ai un peu réfléchi aussi autour de la question. Et c'est vrai que pour une réelle société égalitaire, voilà. Ça peut être un instrument, mais si c'est pas, je veux dire, il n'y a pas des pratiques, une culture, mais aussi au sein des structures, hein, des structures des partis, des structures des représentances, des structures politiques. Voilà, c'est vraiment limitateur comme instrument, comme outil. Et surtout aussi par rapport à certains... C'est plutôt le point de vue qu'on doit renforcer, c'est le point de vue féministe. C'est-à-dire de vraiment... Ça, c'est mon avis. Mais partager les pouvoirs politiques, effectivement, ne suffira pas. Et c'est plutôt d'avoir un regard féministe, donc qui porte plutôt des enjeux qui ne sont pas féminins, mais féministes.
Et un regard sur ce qu'est que gouverner aussi. On en parlait avant l'émission, c'est de se dire que on élit peut-être pas des femmes pour qu'elles fassent comme les hommes, on élit les femmes pour qu'elles changent réellement les choses. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend une gestion des communes plus dans le respect des personnes, où les personnes les plus fragiles pourraient être prises en compte. Enfin, on attend des choses qui ne sont pas de reproduire les jeux de pouvoir qu'on peut avoir autant dans les partis politiques que dans les conseils communaux, oui. que dans les grosses structures d'entreprise.
Tout à fait, tout à fait. À savoir qu'il il y a des évolutions, je veux dire, par rapport à les représentants, et on a aussi des chiffres, et on est vraiment loin, parce qu'on peut se dire, OK, il y a les lois, etc. La mise en pratique, quand on voit les chiffres, on peut dire qu'on est loin, donc on est là bien pour travailler. En Belgique, l'évolution 2006-2012, les femmes bourgmestres, c'est le 10,3% des femmes. Et en termes d'échevines,
sur 10.
30,7%. Et en termes de conseillères communales, on a le 35,1%. en général en Belgique. Donc ça, c'est l'évolution.
Donc il y a seulement un tiers de femmes conseillères communales, c'est même pas encore...
même pas encore.
Voilà, et en Bruxelles, on s'en sort un tout petit peu mieux.
Oui.
Parce que là, on a quand même une bourgmestre sur quatre. Bon, parfois, elle sort de dynastie de bourgmestre, mais bon, allez, on va dire que c'est bien.
On va dire que c'est bien. Et par rapport aussi à... on a entendu tout à l'heure le spot du Conseil des femmes francophones de Belgique. Elles ont élaboré un mémorandum et on voulait partager avec vous une série de demandes et de questionnements que le Conseil des femmes a apporté. C'est un mémorandum pour une politique communale, femmes admises. Et je voulais demander à Martha un peu de nous dire, de nous lire qu'est-ce qu'elle demande, le Conseil des femmes francophones de Belgique.
Donc, en fait, le Conseil des femmes francophones de Belgique demande qu'on porte notre attention sur les enjeux réels des élections communales, puisque les communes ont des compétences différentes de celles qui sont fédérales. Et il y a tout des choix, des priorités politiques qui pourraient être utilisées, puisqu'ils vont avoir un impact réel sur la vie des citoyens dans les communes et dans la ville de Bruxelles. Et il y a plusieurs points qui sont repris.
Oui, ce que tu touches, par exemple, le plus... après, il y a toutes les demandes, et ça, on peut directement les aborder. Mais qu'est-ce que tu touches, par exemple, le plus dans le mémorandum
ce qui me touche, c'est tout ce qui est lié à la mobilité, au handicap, pour l'aménagement du territoire... aussi les discriminations de tout type et alors tout ce qui est dans l'enseignement.
Oui, effectivement, dans le mémorandum, pour te compléter, il y a des demandes explicites, nous demandons l'attribution d'une compétence et d'un budget égalitaire homme-femme. Par rapport à la mobilité, comme tu disais, nous demandons que la commune puisse avoir une insistance de demandes spécifiques en matière de mobilité et aménagement du territoire, en développant une politique sensible. C'est-à-dire des horaires, les trottoirs, la lumière, l'accessibilité des parkings, etc. Puis il y a aussi...
Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle pointait, et par rapport au travail qu'on fait à Vie Féminine, ça me semblait intéressant aussi, c'est que les communes étaient pouvoir organisateurs d'enseignement, et que dans l'enseignement, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Par rapport au travail de l'égalité homme-femme, elle pointait déjà l'éducation non sexiste. Mm-hmm. Et c'est fondamental. On sait bien, enfin, toutes les personnes qui ont des enfants savent bien qu'en maternelle, en primaire, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans la relation fille-garçon. Et un regard d'éducation non sexiste, oui. Là-dedans, ce serait vraiment intéressant. Et aussi, elle pointait le choix des filières. Donc aussi, dans l'enseignement professionnel, on sait qu'il y a toute une série de filières qui sont vraiment attribuées aux femmes sans beaucoup de réflexion, comme la couture ou comme la coiffure ou le soin aux autres. Et parfois, c'est vraiment sans discernement. Et parfois, c'est vraiment douloureux de le dire, mais parfois c'est vraiment des voies de garage. Très peu de filles qui font la couture vont réellement travailler dans la couture. Elles vont peut-être apprendre à gérer le linge de la maison, mais ça n'est pas des boulots, ça. Et donc, elle revendiquait vraiment de mettre en place, là où la commune avait des pouvoirs en tant que pouvoir organisateur, de permettre aux jeunes, aux filles comme les garçons, de pouvoir vraiment faire des choix de carrière avec un enseignement de qualité, mais y compris professionnel, avec effectivement des options qui amènent à un boulot, qu'on soit fille ou qu'on soit garçon. Et ça, moi, effectivement, je me disais, ça, c'est vraiment bien joué, c'est très bien. Et au niveau aussi de tout ce qui est, et j'allais dire éducation permanente, mais c'est plutôt formation continuée, c'était vraiment aussi mettre les conditions pour que les, que les personnes qui ont eu des soucis à l'école ou qui ont eu des trajets de vie mouvementés qui viennent d'arriver en Belgique et des choses comme ça puissent se former pour aller vers le boulot. Et donc effectivement, c'était ouvrir des formations qualifiantes pour les adultes aussi, mais y mettre les conditions, c'est-à-dire par exemple pouvoir mettre des places en crèche à disposition pour ces personnes-là. Et donc voilà, ça me semblait intéressant.
Mmh. Tout à fait. Moi aussi, c'est par rapport aux violences, parce que c'est vrai que le niveau communal est aussi, c'est un premier et super important, c'est le niveau et toute la campagne qu'on a fait l'année passée pour la circulaire Tolérance Zéro. Et c'est vrai, la mise en place des plateformes, la formation, la police, c'est premier, vraiment, c'est là où tu vas, l'ouverture de foyers, de maisons d'accueil et réellement aussi des plateformes locaux qui travaillent un réseau formé et pour une accueil des femmes victimes des violences. C'est vraiment...
Oui, ça. Parce que voilà, il y a tout le travail de prévention sur le terrain et ça, il y a vraiment... La commune a son rôle à jouer pour que police, associations travaillent ensemble. Et puis aussi, qu'est-ce qui empêche parfois de les femmes de quitter la maison? C'est simplement de ne pas savoir où aller. Et là, c'est le logement de transit, le logement d'urgence.
Structure d'accueil du personnel.
Oui. Et donc, c'est des thématiques qui reviennent. Et aussi l'élaboration d'un budget. Ça, c'est quelque chose que, à Vie Féminine, Bruxelles, le groupe a travaillé énormément autour de ça et en élaborant tout un plaidoyer.
Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un budget sensible aux gens, parce que ça a l'air abstrait.
Ça a l'air abstrait. En plus, avec des lois, il y a la loi fédérale qui est passée en 2007, le gender mainstreaming, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment une lecture du budget en termes d'égalité. D'égalité hommes-femmes, etc. Et surtout aussi une lecture des budgets en termes d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Donc, c'est-à-dire par rapport, par exemple, aux violences, maintenant il y a la mode des caméras partout. Et c'est des choix politiques, le fait de choisir
combien, ça coûte combien, ça profite à qui.
Et établir aussi l'impact, parce que souvent on dit les caméras, eh bien, ça coûte énormément et résout pas du tout la question, c'est ailleurs. Donc c'est vraiment allouer de l'argent, décider où le mettre, avec quel, et en termes de lecture de homme-femme, égalité des genres. Donc c'est tout. Et c'est très peu appliqué, mais même la construction d'un budget participatif, c'est pas. Voilà. Pour l'instant, ça reste. Mais c'est une grosse bataille qu'on peut faire niveau local.
Mm-hmm. Ouais. Pour revenir au Conseil des femmes francophones, en fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi, ça vous pouvez le trouver sur le site, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de faire un mémorandum, mais aussi une charte. Et il y a plusieurs élus qui ont signé cette charte. Mm-hmm. Donc c'est vraiment, ils reprennent le point de leur mémorandum et ils le mettent sur forme d'une charte. Donc qui veulent regarder si les personnes pour qui ils pensent peut-être voter sont signataires de la charte, ou ceux qui veulent un petit peu tester les engagements des personnes pour qui ils pourraient voter, ben voilà, cette charte existe.
Oui, tout à fait.
Et voilà, le travail est déjà en cours.
Ok. Et une chose alors à voir, parce que les élections sont un moment où on vote, mais c'est surtout après, c'est-à-dire que...
Ce qu'ils font avec votre vote.
Voilà, observatoire des candidats et candidates, on signe la charte, alors on va voir si tu la respectes. Et sinon, on a... Donc, en tant que citoyenne et citoyen, de veiller à l'application et n'est pas le bon engagement le 13, le 12, le 10 octobre, à la veille des élections. Voilà, vous êtes de nouveau sur Radio Panique 105.4 et vous êtes avec, en compagnie d'Elsa Parle Encore, Georgia, Martha, Hélène et à la technique Mélodie. Alors, après toutes nos discussions, est-ce qu'on vote femme?
Eh bien, la veille de l'élection comme ça, j'hésite toujours. J'hésite toujours entre plusieurs options. Une partie de moi dit oui et une partie de moi dit que bon, il y a quelqu'un sur une liste que je sais que c'est vraiment une personne bien et que peut-être. Et donc je suis toujours partagée, moi.
Oui. Je suis complètement d'accord. Mais moi, je me suis élaboré une réponse aussi, de voter féministe. Et voilà, dans le sens que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que les problèmes, ce n'est pas parce qu'on est une femme, de voter féministe, donc qu'il soit un candidat-candidate féministe. Et ça ne va pas résoudre la question, parce que c'est vraiment une question qui nous touche et qui... Mais c'est ma réponse pour aujourd'hui, ici.
Et on ne donnera pas de nom, et on ne donnera pas de parti, et c'est clair.
Et c'est clair. Alors, on voulait... Justement, la Vie Féminine a lancé aussi une campagne, une campagne « Ma commune lutte contre la précarité ». C'est une grosse campagne qui vient d'être lancée et c'est pas parce que c'est qu'elle avait des élections, mais c'est surtout pour l'après. Et c'est l'occasion d'inviter, d'interpeller et de faire entendre notre voix. À savoir, je vous donne quelques chiffres autour de la précarité parce que effectivement, on peut dire ah oui, bien sûr la précarité des femmes. Vie Féminine travaille toujours ces sujets, mais c'est pas toujours. Et plus précisément, c'est vraiment à travers la commune qu'on peut vraiment agir pour changer des choses. À savoir qu'en Belgique, le 15,8% des femmes est risque de pauvreté et que, effectivement, la question de la monoparentalité, le 49,4% des ménages sont à risque de pauvreté et dans la monoparentalité, on a un chiffre qui est le 85,5% sont des femmes. L'écart salarial, ben là, on est au-delà du 20%, toujours. Les pensions, parce que les pensions, 59% des femmes touchent moins de 1 000 euros. Et revenus d'intégration sociale, le 57,2% sont des femmes. Et 2/3 aussi sont bénéficiaires des garanties des revenus aux personnes âgées, GRAPA. Sont des femmes. Donc ça, c'est des sources de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans le cadre de cette campagne, Vie Féminine invite vraiment à réfléchir avant et surtout après autour de la formulation des revendications et tirant pour les oreilles nos élus parce que voilà, il y a des enjeux locaux qu'on a déjà cités et sur lesquels on reviendra un peu plus. Et ça, c'est pour ce qui concerne la campagne. En plus, on est en train de travailler aussi des outils pédagogiques parce qu'effectivement, quand on parle de commune, à savoir qu'est-ce que sont les compétences de la commune, qu'est-ce qui nous touche, le fonctionnement. Et donc là, c'est plutôt l'élaboration d'un outil qui nous permet aussi de toucher au budget. Cet instrument et outil abnorme qui nous semble très très loin, et à savoir aussi que la plupart sont des hommes, des échevins aux finances qui s'occupent de finances, d'économie et des budgets, et donc pour se réapproprier de tout ça, on est en train d'élaborer des outils à partir du terrain et qu'on va travailler pour interpeller.
Ça repose la question de se dire qu'il ne suffit pas d'être élu, c'est pourquoi faire.
Ben oui.
Voilà. Et donc, effectivement, avoir un regard sur le budget et savoir quel budget on met à quel poste aussi. Voilà, ça faisait aussi partie, je pense, des revendications. Je ne sais plus si c'était de Vie Féminine, du Conseil des femmes francophones ou des FPS, mais de te dire qu'effectivement, en tout cas, les chevinats de l'égalité homme-femme devaient exister et devaient avoir un budget. Ça ne devait pas être honorifique ou la 20e compétence d'une autre personne.
Oui, la question de l'égalité des chances et des logements. Et les compétences de la commune, moi je vote pour la première fois en Belgique, donc je ne suis pas belge. Donc, c'est vraiment, je me suis un peu plongée peut-être aussi dans la chose pour mieux comprendre. Et c'est vrai qu'il y a tout ce qui concerne la première réalité des femmes. On a déjà dit le budget, au-delà du nombre de personnel de la commune, il y a tout ce qui concerne le CPAS, tout ce qui concerne les logements sociaux et tout ce qui concerne l'urbanisme, l'espace vert, l'ordre, l'état civil. Et puis tout l'enseignement communal, l'impôt communal, c'est vraiment voilà, des compétences qui nous touchent en premier.
Oui, par exemple, quand on parlait de précarité des femmes, je pense que, enfin la précarité tout court aussi d'ailleurs, par exemple le CPAS, la manière dont il reçoit les gens, qu'il les réoriente, et puis surtout de la manière dont il donne ou pas la carte médicale, c'est vraiment très 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 important pour un certain nombre de personnes. Donc savoir par exemple que certains CPAS remboursent les frais de crèche quand on se forme. Ben ça permet à des femmes qui émergent du CPS de réellement rentrer dans un processus de formation. La carte médicale, comment est-ce qu'on la donne? Est-ce qu'on la donne après plein de tracasseries et uniquement aux personnes qui ont droit au revenu d'intégration sociale? Ou est-ce qu'on a une vision un peu plus préventive de se dire qu'effectivement, il y a aussi des personnes qui ont des petits chômages ou des petits salaires et qui ont vraiment beaucoup de mal à se soigner? Voilà, ça, c'est des questions concrètes qu'il faut poser aux candidats et qu'il faut suivre pour voir un petit peu ce qu'on en fait. On sait que la santé, en tout cas du côté des femmes, c'est quelque chose de très compliqué, qui c'est souvent, ça passe après tout le reste. Et que donc les femmes se soignent très très mal, aussi bien physiquement que je dirais mentalement. Et donc là-dessus, les CPS ont vraiment beaucoup à faire. Est-ce que le CPS va rentrer en partenariat avec des associations pour ouvrir des cours d'alphabétisation? Est-ce que le CPS va rentrer en partenariat pour plus travailler sur le bien-être ensemble? Voilà, ça, c'est des questions vraiment très, très concrètes, mais qui sont vraiment centrales.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et aussi par rapport à tout ce qui concerne, on l'a dit, les violences, c'est vraiment... Les logements de transit, les logements d'urgence, c'est la police localement.
Le bourgmestre, la bourgmestre.
La bourgmestre.
Est responsable de la police, donc c'est elle qui peut insuffler aussi. Ils sont en contact direct avec les responsables de zone de la police, quoi.
Ouais. Et par rapport aussi, je crois, le lieu de culte aussi, et c'est la commune qui décide aussi pour la couverture, je veux dire, les lieux de culte différenciés, et aussi par rapport à l'état civil. Donc voilà, tout ce qui concerne les mariages et toute forme de mariage, c'est...
Est-ce qu'on facilite le mariage de personnes d'origine étrangère? Est-ce qu'on lutte contre le mariage blanc? Mais avec quelle philosophie? Est-ce que c'est pour être vraiment vexatoire par rapport aux personnes d'origine différente qui se marient? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt dans un but de lutter contre le mariage blanc ou gris et de permettre effectivement à certaines jeunes femmes souvent d'échapper à un mariage forcé? Voilà, c'est la tenue de registre d'état civil, c'est pas rien. On sait aussi que dans les possibilités de régularisation, la commune, la manière dont elle joue le coup à transmettre rapidement les dossiers,
l'office d'Angers,
ça a une implication directe sur la vie de pas mal de gens. Enfin voilà, la commune, c'est vraiment le premier outil de proximité.
L'espace vert, de la mobilité, comme on a dit tout à l'heure, c'est idem. Donc,
Martha, toi, tu disais des choses intéressantes sur la mobilité, parce que tu disais que à la fois c'était important, mais que parfois ça coûtait cher.
Le Conseil des femmes francophones de Belgique a souligné le fait que les femmes étaient les premières utilisatrices des transports en commun, et donc l'importance de tous ces moyens de transport. Hors automobile, quoi. en passant par l'aménagement donc des pistes cyclables, des trottoirs, des transports en commun, de tous les moyens qui puissent permettre aux personnes de mieux se déplacer et aux personnes aussi qui sont plus âgées, qui sont handicapées, qui sont peut-être aveugles ou mobilité réduite.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que ça me fait penser à dans ma vie de mère, c'était aussi tous ces trottoirs où il n'y a pas le dénivelé pour pouvoir monter la poussette en face des passages pour piétons. C'est des bêtises, c'est rien du tout, mais c'est vrai que quand on est en fauteuil roulant ou quand on a une poussette, c'est un peu le même bazar. C'est très, très difficile de grimper sur les trottoirs s'il n'y a pas un dénivelé. L'accessibilité des locaux, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens, ce qu'on a leur dire.
Oui, l'espace vert de la commune, les parcs. Et pour ça, c'est, faire des marches exploratoires, c'est vraiment un chouette outil. Vraiment, à différents moments de la journée, de se réapproprier, de faire, alors de revendiquer. Mais ici, regardez, il y a ça. Donc ça, c'est... Voilà. C'est un chouette outil pour voir à un autre niveau aussi qu'est-ce qui nous touche et où. Alors, ce trottoir, le passage autour de la gare, l'espace vert, la lumière, les parkings.
État des trottoirs.
Tout à fait. Voilà, vous êtes et nous sommes de nouveau à Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4. Eh bien maintenant, qu'est-ce que pour nous c'est important, qu'est-ce que c'est l'enjeu pour nous central dans notre commune, là où nous sommes, où nous habitons, où nous sommes engagés, où nous vivons.
Voilà, moi je pense que il est très important de voir ses propres priorités en fait, hein. Mm-hmm. Notre propre priorité est de bien s'informer avant ces élections malgré tout, parce que ce sont quand même des élections qui sont importantes et qu'il ne faut pas banaliser. Et en fonction de nos priorités, voir lesquelles se rapprochent les plus du candidat. Quel candidat se rapproche le plus de qui pour réaliser nos priorités en fait.
Toi?
Moi personnellement, j'ai un petit avis subjectif. Je trouve plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs choses qui me sont venues comme ça spontanément, mais il faut encore que je réfléchisse bien ce soir. Première chose que j'ai remarquée à Bruxelles aussi, mais c'est qu'il y a beaucoup de travail en aménagement du territoire, des ronds-points, plein de choses qui sont faites en urbanistique, mais qui coûtent, et ça on n'en est pas spécialement toujours au courant, qui coûtent des millions, des poteaux qui coûtent des milliers d'euros la pièce. Et je trouve que cet argent pourrait... pour rester dans l'urbanistique, être investi justement, comme on en parlait tantôt, pour des trottoirs qui soient réellement plats, qui soient pour les déniveler, pour que les déplacements soient plus faciles dans les rues. Et voilà, quoi, simplement ça. Mais... dans un autre domaine aussi, dans le domaine des sports, je remarque qu'il est dommage que par exemple des piscines soient fermées le soir. Enfin, moi en tout cas personnellement, j'aime nager le soir et les piscines, il y en a une qui est ouverte par semaine le soir jusqu'à 20h15. On peut rentrer jusqu'à 20h15 par commune. Il y a une tournante qui est faite sur Bruxelles. Du coup, les déplacements à loin aussi, parce que si on doit aller à l'autre bout de Bruxelles pour aller un soir sur... Je trouve que ce n'est pas facile. En tout cas, quand on a une vie active, qu'on travaille à temps plein, qu'on est étudiant, de pouvoir avoir accès au sport, en tout cas à la natation, au même titre que d'autres personnes qui sont libres pendant la journée. Ça, je trouve très dommage. Et alors, évidemment, il y a des complexes sportifs avec piscine, mais les abonnements, enfin, dans le privé, coûtent...
L'accessibilité, oui.
Coûtent très cher, coûtent en général, moyennement, plus de 100 euros par, par mois. Mmh. Et ça, il y a réellement un travail à faire là-dedans, je pense, et un impact sur la santé publique. Mmh.
Tout à fait.
Ne nous fermez pas les piscines non plus. Hein. Ça coûte cher, on sait, mais franchement, c'est utile.
Bah oui.
C'est en termes... oui.
Donc le sport et l'accessibilité.
Voilà. Bon, moi, mon point de vue à moi, c'est vraiment les services offerts par la commune. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment important. Donc moi, c'est vraiment tous les services aux personnes que... Pour moi, une commune qui est bien gérée, c'est une commune effectivement où il y a assez de places à l'école, où il y a des places en crèche, où les homes aussi sont gérés convenablement et où on permet aux personnes âgées de continuer à bien vivre dans la ville. Donc on leur met des services à disposition, des lieux collectifs. Qu'on travaille effectivement sur l'aménagement du territoire pour créer de la convivialité. Ça, c'est vraiment... ce qui, moi, me ferait dire que ma commune est bien gérée. Et ça, soit la commune le fait elle-même, soit elle crée une dynamique qui fait que les associations qui habitent la commune puissent s'en emparer et bien vivre. Enfin, voilà, ça, c'est deux options. Et moi, ou c'est juste un mixte, peu importe. Mais je pense que la commune, c'est vraiment aussi la proximité et que c'est dans la proximité... dans les services de proximité, qu'on voit que la commune travaille bien, et si possible avec des services vraiment de qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est communal ou que ça doit être pas cher et de mauvaise qualité. Voilà.
Tout à fait. Oui, et les places d'accueil, c'est vraiment... Ouais. Moi, pour compléter, c'est là où je suis, où je vis, et avec la vie que je conduis, il y a plusieurs choses, mais si je dois mettre une priorité, c'est un terme, bon, parce qu'elle est culturelle, dans le sens où la culture n'est pas que le théâtre, le spectacle et aller voir une représentation, etc. Mais c'est vraiment créer et des lieux accessibles, des lieux de proximité des cultures et multiplier les possibilités de faire des démarches culturelles, des rencontres. Donc ça, c'est vraiment... Et pas, je ne sais pas, des ateliers, des plic-ploc qui coûtent dans ça, d'écriture, que maintenant, il y a des modes ou d'autres choses qui après sont fréquentés par deux personnes parce que c'est un tel horaire et un tel lieu, un tel prix et c'est pas du tout ça pour moi la culture, c'est aussi ça mais aussi d'autres choses. Et en termes des mamans avec la vie que je conduis, ce serait par exemple avoir aussi des services, je ne sais pas, dans mon village, pas en Belgique, il y avait un pied du bus, mais que je pense en quartier, c'est, on peut le reproduire, c'est-à-dire une gestion soit avec des bénévoles ou des parents, c'était une gestion des enfants qui vont à l'école et souvent les parents doivent partir plutôt, prendre ce métro, ce transport, le vélo, courir, etc. Donc s'organiser collectivement pour que à pied, à un quartier, dans l'école de quartier, Si on a la chance,
si on a la chance,
c'est la possibilité
d'avoir une place dans l'école,
dans l'école ou dans la crèche ou dans l'école de quartier. Donc, d'organiser des promenades, des jolies promenades le matin où il y a quelqu'un qui vient et prend et accompagne ta fille, ton fils. C'est vraiment. Et une autre chose, c'est le logement. Et là, c'est vraiment un chapitre énorme et qui voilà, il n'y a pas que des compétences communales, je me rends compte, mais là, il faudrait vraiment faire un raisonnement politique parce que, en termes privé et public, on est en train de créer... Il y a des prix qui montent à tout niveau, à l'insalubrité que tu as des locaux, les logements sociaux, il y a des listes qui sont inaccessibles, ne sont pas suffisants et ne vont pas résoudre toujours toute la question, mais moi je trouve qu'en termes de logement, il faut un investissement. C'est vraiment... Et aussi mettre des baromètres, je veux dire, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais mettre des... Au-delà de tel prix, on n'y va pas. Parce que sinon, bien sûr, ici à Bruxelles, maintenant, les prix montent. Et là, c'est vraiment un accès. Et en termes de qualité de vie, si on a une chambre et on est à 3 ou 4 dans la chambre et on a une chambre à coucher, tu as quelle qualité de vie, quelle qualité de vivre ensemble. Voilà. C'est vraiment fondamental. Et moi, je trouve que c'est aberrant, voilà, la politique qu'on est en train de faire autour du logement. Donc.
Ben surtout que moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, il y a des projets de grands ensembles de luxe dans des quartiers populaires. Et ça me met vraiment aussi en colère. Parce que, et puis sans infrastructure, parce que bon, où est-ce que ces familles vont aller, où est-ce que, bon, voilà.
C'est pas que le logement, bien sûr.
Mais bien sûr, et les communes ont quand même des choses à faire. Donc, c'est vrai que parfois, ils sont propriétaires de terrains communaux. Qu'est-ce qu'ils font avec ces terrains communaux? Il y a le service d'hygiène de la commune. Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y a un service qui aide à la rénovation des bâtiments? Voilà, et puis... une fois, j'ai rencontré une dame qui me disait, mais moi aussi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on regarde un petit peu qui est propriétaire sur les communes et qu'on ose taxer les gens qui sont propriétaires de plein de logements aussi. Parce que, bon, en Belgique, les choses sont organisées pour le meilleur ou pour le pire autour de gens qui achètent leur maison. Pour y vivre, ça... Bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de voies en Belgique. C'est ou bien tu achètes, ou bien tu essaies d'avoir un logement social. L'entre-deux est très, très rare. Mais voilà, donc, qui est propriétaire des logements dans la commune? S'il y a des gens qui ont plusieurs maisons, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à les taxer pour permettre l'accès, que ces logements soient redistribués à des gens qui seraient propriétaires d'un seul logement? Et puis, bien sûr, c'est aussi la lutte contre les chancres urbains. Bon, s'il vous plaît, ne laissez pas pourrir des îlots entiers pour en faire de la spéculation. Enfin,
Et le vide aussi.
Oui, mais
donc,
oui.
Qu'on puisse occuper ces lieux qui sont vides et abandonnés. Donner. Et puis, mais moi, en termes vraiment de personnes, et j'habite à Bruxelles depuis 4 ans. Ben, les loyers montent et c'est vraiment par rapport... Et j'ai déjà la chance d'avoir un travail et d'avoir un travail à temps plein, et etc., etc. Mais les loyers, c'est impensable. Si après, on regarde, si on est monoparental, etc., ça oublie. Si tu n'as pas... C'est vraiment... Et quand j'assiste à des débats où je vais lire les programmes électoraux, etc., je vois là qu'il y a une réalité, et même ma réalité au quotidien, qui est très très loin, et je me demande où est-ce qu'on va, parce qu'après, je veux dire, on a aussi, désolé, mais j'ai les amis qui travaillent hors système belge, bien sûr, et on peut se permettre certaines choses, parce qu'il y a des salaires aussi qui sont hyper élevés par rapport à un logement, au prix des logements. Donc pour certaines, on peut déménager facilement d'un quartier à l'autre, d'une maison à l'autre. Et par rapport aux propriétaires, il y a vraiment une injustice là, parce que tu dois pas même déclarer ce que tu gagnes de la location. Mm-hmm. Donc c'est vraiment quelque chose d'injuste au départ. Si déjà ça, il faudrait le changer, mais là je ne sais plus si on est dans quelle compétence. Mais
si un petit peu quand même, parce que c'est le revenu cadastral.
Oui, bien sûr. Donc
et c'est de là que viennent aussi les budgets communaux. Hein.
Tout à fait. Donc et même le vide, je veux dire, là c'est vraiment localement qu'on peut agir.
En tout cas, Je sais qu'il est difficile pour des personnes qui sont au CPS de parfois même acquérir un logement, puisque les propriétaires demandent vraiment les revenus et ils veulent des fiches de paye des trois derniers mois. Les personnes qui sont au CPS ou qui sont étudiantes ou quoi, c'est de moins en moins facile d'avoir un contrat de bail, d'avoir quelque chose de correct pour signer, quoi. Et donc, du coup...
Et ça rentre de nouveau dans les façons de faire des CPS aussi, parce que les CPS sont très, très frileux aussi à s'engager auprès des locataires, parce que les CPS pourraient... Enfin, je veux dire, dans les décisions qu'un CPS peut prendre, c'est aussi de faciliter l'octroi de réelles garanties locatives. C'est de pouvoir s'engager, par exemple, à dire, ben voilà, nous, ça va nous compliquer la vie de la gestion du CPS, mais on va te payer directement les loyers aux propriétaires. Comme ça, on offre des garanties aux propriétaires. Moi, si j'ai un bien qu'on me dit que le CPS bloque les 3 mois de garantie, enfin, maintenant, c'est 2. Légalement, c'est 2. Les 2 mois de garantie sur un compte, et qu'en plus il me paie directement mon loyer et que la personne n'a plus qu'à gérer le reste de son budget, moi j'ai toutes les garanties. Je préférerais encore être dans cette façon de faire que d'avoir quelqu'un qui travaille et qui peut-être a des dettes et ne sait pas gérer son budget. Mais ça, c'est là aussi comment on travaille les CPAS. Comme je sais qu'il y a des CPAS qui allaient quand même visiter les logements avec les personnes qui avaient mis sur place des cellules de logement pour ne pas que les gens tombent de logement insalubre en logement insalubre. Oui, presque c'est la seule chose qui est accessible pour des personnes du CPS si le CPS n'offre pas de garantie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la commune et d'une réelle politique sociale concertée au niveau communal.
Oui, ouais. Comme on disait. Mais, et justement, alors, ma commune lutte contre la précarité, c'est tout ce qu'on a dit. Et ce dossier, je vous invite à aller sur le site www. Ça, c'est ma langue maternelle qui sort. www.viefeminine.be ou bien la campagne qui s'affiche sur la première page, ma commune lutte contre la précarité, ou bien demander aussi au 02 227 13 00 pour tous les dossiers et pour suivre nos élus.
Oui, parce qu'il y avait ça aussi dans ce dossier qui était intéressant. C'était effectivement quelles sont les questions que je dois me poser, quelles sont nos revendications, et puis comment je fais pour suivre et vérifier que les élus... voilà. On dirait que cette année-ci, pour les élections, les femmes sont devenues très pragmatiques. Elles suivent. Elles font signer des chartes et elles suivent.
Mais... il nous reste que clôturer et...
On a un groupe Facebook, voilà. Et donc, les émissions qu'on fait sur Radio Panique, on peut les commenter sur Facebook. C'est un groupe qui s'appelle « Elles en parlent encore ». Les émissions sont sur le site de Radio Panique, sont podcastables sur le site de Radio Panique, mais aussi sur le site de Vie Féminine. Il faut aller sur l'onglet « En région Bruxelles » et puis « En radio ». Et à l'écoute des émissions, voilà. Donc vous pouvez nous retrouver. On a des émissions en vue prochainement. Il y en a 2 sur le feu. Une qui reviendrait encore sur la semaine d'études de vie féminine. Et puis une autre qui serait plutôt consacrée à des coups de gueule de l'été. Parce que l'été a été très chaud au niveau des actualités quand on a un regard féministe. Et bien qu'on soit déjà en automne, que les feuilles commencent à tomber, on a envie de revenir dessus et vraiment décoder cette actualité-là qui nous a fait bondir avec un regard féministe.
Et l'idée est de vous lancer aussi une nouvelle programmation des émissions avec des rubriques. Et tout ça, c'est pour cette année, 2013-2014. Bien, merci Hélène. Merci Martin.
Merci.
Et merci Mélodie à la technique. Et alors, vous pouvez aussi contacter pour plus de renseignements le 02 513 69 00. C'est le numéro de la région de vie féminine. Et là, vous pouvez demander et vous trouvez aussi nos contacts sur le site. Et alors, votez féministe. À très bientôt.